plaisir, au danger, au travail, j'ai toujours la première place.
La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo en 9 épisodes par Laurent Delmas.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Perry.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis.
Je suis pas spécialement beau, mais je suis un grand boxeur.
Depuis cette manie des porte-robots, je suis obligé de changer de tête tous les jours.
Ici Bob Sinclair, j'écoute.
Pourquoi vous avez fait tout ça?
Parce que j'avais envie de le faire.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada.
L'essentiel, c'est que la vertu triomphe.
La Bébelle Époque.
Il ne faut pas oublier, on voit Belmondo, star de cinéma, c'est une chose. Mais Belmondo, il a fait le conservatoire. Bon, si vous voulez, Belmondo, c'est un acteur de théâtre, c'est un acteur de comédie bouffe, de comédie vaudeville. Il est capable de le faire. Peu de gens sont capables. Alors, Joyeux Spack, ça lui a permis de retrouver ses vieux souvenirs de théâtre. Ça lui a permis de retrouver des difficultés d'acteur qu'il était capable de surmonter. C'est ça qui l'a attiré dans le rôle. La prouesse et la difficulté pour arriver à faire rire. Aussi bien dans l'action que dans la pièce de théâtre, il est drôle. Tout est poussé au gag.
Jean-Paul Belmondo, D'à bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Vous n'avez pas tout dit, Delmas.
Mon personnage dans Pierrot le Fou s'appelle Ferdinand, en référence à Louis-Ferdinand Céline, l'auteur d'un livre qui ne me quitte jamais. Je suis tombé sur Voyage au bout de la nuit à l'époque du conservatoire, ou plutôt, il m'est tombé dessus pour ne plus me lâcher. Depuis, je rêve d'être Bardamu, a écrit Jean-Paul Belmondo dans ses mémoires en 1976. Toute sa vie, il aura poursuivi le rêve de porter à l'écran ce chef-d'œuvre littéraire et d'en dire sa prose si singulière. La rencontre artistique avec Céline n'aura donc pas eu lieu. Mais d'autres écrivains de renom ainsi que des scénaristes talentueux feront de Belmondo leur porte-parole de cinéma. De Marguerite Duras à Michel Audiard, en passant par Jean-Claude Carrière, Georges Champrin, Jacques Lanzmann, Albert Simonin, Jean Herman et Francis Weber notamment. Sans compter les films adaptés de romans écrits par Georges Simenon, José Giovanni, Robert Merle, Georges Darien, William Ayrich, Pierre Signac ou bien encore David Goudis. La voix de Belmondo a donc porté ses différentes langues littéraires, qu'elles soient précieuses ou argotiques, pleines de délicatesse ou de verve, de répliques devenues cultes et de bons mots d'auteur. L'admirateur de Céline avait aussi la solide réputation de faire totalement confiance à ses dialoguistes sur les plateaux de tournage. Comme pour mieux prouver son amour des mots et du verbe, lui, l'acteur physique par excellence. En route pour un voyage au pays des mots de Bébel. Ou plutôt, comme il disait lui...
Allons-y, allons-y.
Dès son sixième film, À bout de souffle, Belmondo a dû dire les mots d'un auteur très particulier nommé Jean-Luc Godard. Phrases courtes et syncopées, comme une partition de jazz, sont au programme du film et donnent à l'acteur l'occasion de vérifier l'immense efficacité de sa gouaille sur le spectateur. Or, deux mois plus tard, sort un autre film dont Belmondo partage cette fois la vedette avec Jeanne Moreau. Et c'est Moderato Cantabile de Peter Brook, d'après le livre de Marguerite Duras, cette dernière signant l'adaptation et les dialogues. Le grand écart après À bout de souffle? D'une certaine manière, oui, si l'on en croit Belmondo, interrogé à ce propos en 1963.
Ce rôle de Chauvin dans Moderato a été pour moi une étape très importante. Parce que lorsque j'ai tourné Moderato, je venais de finir À bout de souffle et Class Touris. Hein, À bout de souffle, c'était ce personnage un peu désœuvré. Dans Class Touris, je faisais carrément un gangster. Et pour moi, d'accepter Chauvin, c'était des dialogues de Marguerite Duras, c'était Peter Brook, c'était son premier film. Donc, ce n'était pas des choses très faciles. En plus, j'avais comme partenaire une grande actrice, c'était Jeanne Moreau. Pour moi, finalement, quand j'ai tourné ça, j'étais très... très très débutant au cinéma, je ne savais pas très bien ce que je pouvais faire, ce que je pouvais rendre, et je me suis trouvé, je dois avouer, sur des dialogues que je n'ai pas toujours très bien compris au tournage, parce que j'ai trouvé très, très compliqué d'après les situations, et justement le travail avec Peter Brook a été très bien, parce que c'est un homme qui connaît merveilleusement les acteurs, et je crois que justement ça m'a donné confiance par la suite. Lorsqu'on m'a proposé de tourner Léon Morin prêtre, j'ai accepté, malgré que beaucoup de gens m'aient dit qu'il ne fallait pas le faire. J'ai me ramassé dans un curé. Je crois que c'est le personnage où j'ai eu le plus de mal à jouer. J'ai eu plus de travail pour moi, j'ai beaucoup peiné dans ce rôle. Quand j'ai eu fini ce rôle, je m'étais dit, je ne trouverai jamais un rôle aussi dur que ça. Alors quand elle m'a proposé Léon Morin, je me suis dit, ça ne pourra pas être plus dur que ce Chauvin, puisque je suis arrivé à le jouer, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas jouer celui-là. Donc je crois, en ça, ça a été très, très important.
Vous savez, je sais tout, presque tout.
Vous avez appris quelque chose de plus ?
Il y a exactement 6 mois qu'ils s'étaient connus. Il y a 6 mois qu'ils se connaissaient.
Ils s'étaient connus par hasard ?
Par hasard. Lui passait tous les jours devant chez elle pour aller à son travail. Et elle le voyait passer. C'est comme ça que les choses ont commencé entre eux. Elle était très tôt derrière sa fenêtre à regarder la rue. Lui la voyait aussi. Faut dire que c'était une femme qui regardait souvent les hommes le matin. Les hommes qui allaient travailler à l'arsenal. Et c'est seulement lorsqu'elle a commencé à le voir passer lui qu'elle a découvert son ennui. Qu'elle a compris qu'il y avait longtemps qu'elle s'ennuyait, longtemps qu'elle regardait les autres hommes. Alors que les femmes de la ville dormaient encore.
Un jour, Melville m'appelle pour jouer dans son Léon Morin prêtre, une adaptation sophistiquée du Goncourt de 1952, écrit par la romancière d'origine belge Béatrix Beck. En lisant le scénario, mon admiration pour le réalisateur s'est accrue. Ce garçon n'a peur de rien, ni des longs dialogues philosophiques et fastidieux sur l'existence de Dieu, ni des conversations innombrables sur le péché et les vertus, écrit Belmondo dans ses mémoires. Mais depuis Moderato, sorti l'année précédente, Belmondo sait qu'il peut dire n'importe quel dialogue, comme ici dans cette joute oratoire avec Emmanuel Riva, sa partenaire dans le film de Melville.
Comment voulez-vous que je croie sans preuve ?
Il ne faut pas qu'il y ait de preuve au sens où vous l'entendez. La croyance en Dieu n'est pas une certitude cérébrale, scientifique, comme vous semblez le croire. La croyance en Dieu, c'est un accord de notre être tout entier. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez sans preuve. La foi, c'est pareil, une certitude morale.
Mais d'abord, dans un tas de livres religieux, on énumère les soi-disant preuves de l'existence de Dieu.
C'est mal dit. Ce sont des guides qui nous aident à parcourir un bout de chemin. Il y a toujours un précipice à franchir tout seul. S'il y avait des preuves, comme vous dites, tout le monde croirait. Plus besoin même de croire. On comprendrait. On saurait. On verrait. Ça ne serait déjà plus ici-bas, ça serait le ciel.
Sa façon de parler, sa gestuelle, ses expressions proviennent toujours du même endroit, du même homme, de la même âme large. Ses phrases sont des voyages, des reliefs improbables. Ses mots roulent comme des rochers et font du feu sur leur passage. Cette langue à lui, dont Michel Audiard a tiré des dialogues truculents, vous conquiert vite l'oreille, a écrit Belmondo à propos de Jean Gabin. Leur première et décisive rencontre eut lieu sur le tournage d'Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil. Et le film est comme un passage de témoin générationnel entre les deux acteurs, avec en guise de viatique la langue d'Antoine Blondin adaptée pour l'écran par Michel Audiard.
Il y a longtemps que je rêve de triompher à Madrid. Le public sera exigeant, surtout derrière Miguelito.
Je vais être obligé de prendre des risques.
Eh ben, j'espère que tout se passera bien.
Je mettrai mon costume blanc, celui de mes débuts. Vous vous souvenez de cette noviade à Tolène ? Ce vent froid, ce public affreux, et ce taureau qui voulait pas mourir. Moi, depuis, j'en ai stocké plus de 100. Je suis le plus grand matador français, Gabriel Fouquet. Plus grand que Pierre Schull. Yo soy unico. Venga, todo. Venga. Que plato.
Vous intéresse, papa ?
Peut-être.
Qu'est-ce qui vous intéresse ? Le matador, le taureau ou l'Espagne ?
Le voyage, notre façon de voyager.
Ah, ça, c'est un secret.
Oh là là, le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Et c'était pas en train de bandier, vous pouvez me croire. Tu es fou qu'à moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'a envoyé un peu plus loin que l'Espagne. Le Yangtze Kiang, vous avez déjà entendu parler du Yangtze Kiang. Ça tient de la place dans une chambre, moi je vous le dis.
Sûr. Alors, 2 caresses ?
Je ne bois plus. Je croque des bonbons.
Et ça vous mène loin ?
En Chine, toujours. Mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quand à descendre le Yangtze Kiang en une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et encore, pas tous les soirs. Les sucreries font bouchon. Allez,
bonsoir.
Papa ?
Oui.
Je crois que j'ai raté mon train pour Madrid.
Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. Et vous, à qui vous me faites penser ? Un de ces singes égarés, comme on en rencontre en Orient au moment des premiers froids.
Dans son livre « Mille vies valent mieux qu'une », Belmondo écrit « Dans La sirène du Mississippi, le pauvre Louis Mahé que j'interprétais était l'as de la débâcle, le prince de l'échec, le prix Nobel du revers, sans cesse défait et un peu plus affaibli par les événements. On m'avait toléré en curé, on ne me supportait pas en Jésus qui tend l'autre joue pour la baffe et les deux mains pour les clous. » Oui, mais Belmondo oublie de dire que son personnage amoureux, face à Marion, alias Catherine Deneuve, dit mieux que quiconque les merveilleux et fiévreux dialogues écrits pour l'occasion par François Truffaut.
Moi, je sais, tu aimes pas que je te dise que t'es belle. Je crois toujours que j'exagère. Attends. Je vais t'expliquer. Attends.
Je t'attends.
Je vais plus te parler de ta beauté. Je vais même te dire que t'es moche, si tu veux. J'essaie de te décrire comme si tu étais une photo ou une peinture. Tais-toi. Ton visage est un paysage. Tu vois? Je suis neutre et impartial. Il y a les deux yeux. Deux petits lacs marrons.
Marron-vert.
Deux petits lacs marron-vert. Ton front. C'est une plaine. Ton nez, petite montagne, petite. Ta bouche, un volcan. Ouvre un peu, j'aime voir tes dents. Non, non, pas trop. Voilà, comme ça. Tu sais ce qui sort de ta bouche quand t'es méchant ? Des crapauds. Tu sais, des crapauds. Et des colliers de perles quand t'es gentil. Non.
J'attends.
Parlons un peu de ton sourire maintenant. Oh non, bon celui-là. Ça c'est celui que tu fais dans la rue et commerçant. Non, donne-moi l'autre, le vrai. Celui du bonheur. Voilà, c'est ça, formidable. Non, c'est trop, ça me fait mal aux yeux, je peux plus te regarder. Attends.
Je t'attends.
J'ai les yeux fermés, pourtant je te vois. Je vérifie. Si j'étais aveugle, je passerais mon temps à caresser ton visage, ton corps aussi. Et si j'étais sourd, j'apprendrais à lire sur tes lèvres avec mes doigts, comme ça. Même si tout ça doit finir mal, je suis enchanté de vous connaître, madame.
Cinq ans après les mots de Truffaut pour La sirène du Mississippi, Belmondo dira ceux écrits par Georges Semprin pour le scénario et les dialogues de Stavisky, le film réalisé par Alain Resnais. D'autres mots, un autre univers, mais chez l'acteur, le même respect pour le travail des écrivains de cinéma, comme il le disait au micro de Michel Cédric sur la RTBF, l'année de la sortie du film.
Votre scénariste, alors c'est vous aussi qui le choisissez, vous choisissez tout.
Oui, non mais c'est-à-dire que là, c'est pas moi qui ai choisi Semprin, étant donné que c'est René, quand on lui a proposé, comme il avait fait La guerre est finie avec Semprin, et évidemment tout le monde était d'accord pour prendre Semprin, qui est un très bon écrivain.
Et quand on vous propose un scénario, est-ce que vous pouvez changer certaines phrases, ou alors vraiment, il faut dire textuellement les phrases écrites?
Non mais je veux dire, ça dépend des films. Par exemple, Le Magnifique, j'improvisais beaucoup, vous voyez, c'est un film comédie. Dans un film comme celui-là, où il y a une sorte de rythme dans le texte, on est forcé de dire le texte. Bon, évidemment, s'il y a un mot que vous ne pouvez pas dire, on le change. Mais disons que d'habitude, moi, dans les films, je fais beaucoup de textes à moi. Mais celui-là, ça sera vraiment du Semprin.
Dilapidé? Mais ces millions ne sont pas dilapidés. Ils sont investis. La seule façon d'attirer l'argent, c'est de le montrer. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit ? De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Ils auront les affaires d'Alexandre battent de l'aile. Et ça sera la curée.
Mais c'est vrai qu'elle batte de l'aile, Alex.
Dans 2 mois, tu dois comparaître devant la 13e chambre.
Véricourt a un plan. On s'arrange avec les parties civiles.
On s'arrange. On s'arrange. Et d'où vas-tu sortir les millions qu'il faut pour s'arranger? Et les bons de Bayonne? Il y a 8 jours, 3 millions de bons sont venus à échéance. Tu n'as pas pu les rembourser. Dans 1 mois, 5 autres millions vont nous être renvoyés. S'il y a la moindre enquête, on verra aussitôt que les bons de Bayonne sont faux.
Il me faut 100 millions, c'est vrai. Mais au mois d'octobre, la caisse autonome sera constituée. Avec les 500 millions, je rembourse, j'éponge la masse des bons de Bayonne en circulation. Et nous voilà repartis, mon vieux Borelli.
Et d'ici là, tu vas refaire le coup des émeraudes?
C'est beaucoup mieux que ça. Une opération avec l'Hidalgo. T'es amoureux d'Arlette, il m'écoutera.
Montalvo? C'est un joueur de polo, c'est un conspirateur de salon.
Il fit pas. Il prépare un coup d'État en Espagne. Il veut acheter des armes à Mussolini. Dans ces affaires-là, il faut beaucoup d'argent. Je vais lui proposer ma société genevoise pour servir d'intermédiaire et bloquer les fonds.
Co-écrit par Jean-Paul Rapneau, Ariane Nouchkine, le romancier et dialoguiste Daniel Boulanger et son réalisateur Philippe de Broca, le scénario de L'Homme de Rio donne à Belmondo une nouvelle occasion de montrer sa fidélité au texte originel. Comme le rappelait de Broca au micro du Masque et la Plume sur France Inter, et en dépit de l'ironie déployée à cette occasion par l'animateur de l'émission, François-Régis Bastide.
Jean-Paul, il est merveilleux parce que alors on lui dit, bon, alors voilà, tu...
Par exemple, pour L'Homme de Rio, enfin.
Non, on arrive le matin, je te rappelle, t'es Adrien Dufourquet, tu viens de Paris, là, t'es... Ah oui, c'est ça, je suis permissionnaire, oui, je me rappelle. Oui. Tu sais, je t'avais parlé il y a 15 jours du film. Oui, très bien. Bon, enfin, bref, ça n'a pas d'importance, tu vas de là à là, c'est pas, tu sautes, ouais. Alors t'as 15 étages, là, sous les pieds. Bon. Et puis, alors, quand je devais dire moteur, la claquette, et puis il partait, alors hop, il part, il saute magnifiquement, il fait d'ailleurs éventuellement un soupirier au milieu, ouais. Une pirouette de l'autre côté, une grimace, ouais. On coupe et puis on passe à autre chose. Enfin.
C'est ça. Mais pour le texte, il comprend très bien ce qu'il dit quand même.
Ah non, mais le texte c'est pareil, le texte on lui...
Ah
non,
bon.
Non, j'ai l'air de dire du mal de Jean-Paul.
Oh non, pas du tout.
C'est un comédien que j'admire profondément et que j'aime en plus. Enfin lui, le personnage. Mais lui, non, on prend le scénario comme ça... Et avant de tourner, j'ai dit, tiens, regarde ça, tu dis ça. Il dit, bon. Oui, bon, d'accord, oui. Tu veux pas qu'on change un truc? Non, ça va. Tu veux pas un mot, un truc? Non, ça va. Et pof, il vous largue le texte comme ça, en place. On dit, attention, tu t'arrêtes, Oui, d'accord. C'est vraiment la grâce continuelle, enfin. Ouais.
C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'on pourrait lui mettre brusquement, subrepticement, un peu d'Othello ou d'Hamlet, il dirait rien et il le dirait aussi juste.
Ah oui, très bien, et puis ça serait dans le ton du reste, enfin...
Oui, c'est ça.
Ça serait montable, je suis sûr.
Monsieur, auriez-vous l'amabilité de m'arrêter? Motif, je suis déserteur, j'ai perdu mon uniforme, j'ai voyagé sans billet, j'ai escroqué un infirme, j'ai assemblé des blancs, des noirs, des collègues à vous de toutes les couleurs, je roule dans une voiture volée, rose, avec des étoiles vertes ici présentes, et j'attends à la pudeur de l'autoroute, comme vous avez pu le constater. Monsieur, les menottes, s'il vous plaît. Soldat du Fourquet, 3e escadrille de Besançon. Connaissez? Besançon? Non, évidemment. Fario et Brasilia.
Ah, Brasilia, à 50 kilomètres.
À vous dégoûter d'être venu.
À notre micro, cette fois, le cinéaste Philippe Labro atteste à son tour du total respect porté par Belmondo au dialogue de son film « L'héritier », écrit par l'écrivain, scénariste et par ailleurs parolier attitré de Jacques Dutronc, Jacques Lanzmann.
Je n'ai jamais entendu discuter une seule des lignes de notre dialogue. Mmh. Jamais. Mmh. Il ne m'a jamais dit, tu sais, on ne peut pas dire ça comme ça, je préférerais le dire comme ça.
Mmh. Non. Jamais.
Non. Comme on dit en anglais, il a délivré. Je voyais arriver le matin sur certains tournages à l'extérieur, avec sa casquette sur le crâne, le journal de l'équipe sous le bras, hein. Goguenard, comme toujours, discutant beaucoup avec les beaux qui étaient souvent avec lui, les beaux Vici, ou même René Château qui était là aussi. Et à chaque fois, je me disais, mais est-ce qu'il prend au sérieux ce qu'on fait? Mais ça durait une minute, parce qu'ensuite, à peine habillé en héritier, en Barthe Cordel, eh bien, il y va. Et encore une fois, je sais qu'il a tout appris la veille, qu'il a tout compris, que le comportement est impeccable, et il n'a pas discuté une seule des lignes de notre dialogue.
Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Gabin, un père de cinéma pour Belmondo, et cette chanson en forme de bilan. Maintenant, je sais.
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Radio-Canada. La Bébelle Époque, Jean-Paul Belmondo, en 9 épisodes, par Laurent Delmas.
Impossible à ce stade de ne pas revenir en détail sur la complicité, notamment artistique, qu'il y a Michel Audiard et Jean-Paul Belmondo. Tout commença sur un mode assez mineur, en 1960, avec l'un des sketchs du film « La Française et l'amour », le cinquième très précisément, intitulé « L'adultère », et dans lequel Belmondo jouait le rôle de l'amant de Dany Robin, marié à Paul Meurice. Rien de mémorable, mais c'est la première fois que l'acteur dit de l'Audiard. Et ce ne sera vraiment pas la dernière, comme il s'en souviendra au micro d'André Asseo. Avec ensuite, et en guise d'illustration, un extrait du dialogue savoureux écrit par Audiard pour « L'incorrigible » de De Broca en 1975.
Il faut quand même citer Georges Lautner parmi
voilà, et Lautner,
les amis réalisateurs.
Le professionnel, et Lautner est un ami. En dehors d'un réalisateur aussi, c'est un grand ami. Et j'ai eu toujours un plaisir fou à tourner avec lui aussi. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ses films, il y avait Audiard aussi. Voyou, c'est des dialogues d'Audiard. Ouais. Bon, on parlait de Verneuil, il y avait Audiard aussi. Hein.
Oui.
Et ça pour un, bon, je crois que j'ai dû faire 14 films où il y avait des dialogues d'Audiard. Et croyez-moi que pour un acteur, ça, de lire de l'Audiard, c'est formidable. Mais on parlait du cinéma commercial et pas commercial. Figurez-vous, quand je tournais, moi, des films avec Audiard, tout le monde me disait, mais vous n'avez pas d'autre prétention que d'ambition, disons, que de tourner avec Audiard. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde veut Audiard, et Audiard, c'est formidable. Mais à l'époque, on tapait sur Audiard. Mais c'est avec le temps que les gens ont vraiment apprécié Audiard. Et maintenant, regardez des films comme Le Cave sur Beef. Bon, eh ben, c'était méprisé, hein, quand même, qu'on le veuille ou non. Et maintenant, ça devient pratiquement des films cultes. Hein. Le Cave sur Beef, c'est des dialogues extraordinaires. Hein.
Quand vous dites Audiard, vous avez 14 films dialogués par lui-même. Il écrivait en pensant à vous, il vous suggérait des répliques que vous auriez à voir.
Voilà, vous savez, il y avait, si vous voulez, par exemple, vous prenez un film comme L'Incorrigible qu'on avait avec De Broca. On mangeait tous les trois, et bon, on aimait bien le mensonge, parce qu'on était trois menteurs. Finalement, il y en a dit, on préfère un film sur le mensonge, alors on disait si, ça. Et Audiard écoutait, prenait, et après, il écrivait, si vous voulez. Oui, il faisait du sur-mesure, quoi. Oui, oui. Et ça, c'était.
Et
si une réplique vous gênait, par exemple, je lui disais, ah, Michel, alors, mais j'arrive pas à la dire, et hop, il l'a tourné autrement. Oui, je veux dire, c'est. Et ça, aujourd'hui, je
veux dire, est-ce que ça existe aujourd'hui?
Non, je crois pas, malheureusement, je crois pas. Et les gens aiment ça parce que, vous savez, ils se rappellent de ces répliques, hein, les gens. Autrefois, Janson, Prévert, tout ça, on se rappelle leurs répliques. Hein. Ça fait partie du cinéma, qu'on le veuille ou non. Hein.
Tu remarqueras que je ne te demande rien.
Tu sais très bien que depuis hier, je ne suis plus seul. Il y a Marie-Charlotte. Elle ne m'a pas quitté de la journée. Un vrai pot de colle.
Cette petite Marie-Charlotte Ponzalec, est-ce que nous avons eu de mieux depuis Hélène Dupont-Moreau? Et cette égyptienne, admirable, que nos manières ont lassée.
La nympho qui faisait la danse du ballon.
Bon. Victor, tu ne crois pas qu'il serait grand temps de te fixer? Mais j'aimerais que cette fixation ne se situe pas entre l'Alcazar et la Grande Gêne. Où habite-t-elle?
Qui?
Marie-Charlotte.
Senlis.
Ah, ça sonne déjà bien. Que fait le papa?
Je ne sais pas.
Je ne me fais aucun souci. C'est sûrement un ingénieur des eaux et forêts ou un ancien gouverneur colonial. Un mariage dans ce milieu serait pour toi un sauvetage.
Un mariage, parlons-en. T'es revenu tout seul de ton voyage de noces. Et Madame Raoul est partie en lui laissant 5 paumes sur les bras.
Tu parles comme un enfant, Victor. Tu vois l'amour à travers les mandolines et les vers de Mirliton. L'amour, le vrai, est shakespearien. L'amour ne se susurre pas. Il se hurle. J'ai hurlé comme personne. Ça m'arrive encore. Antinéa. Ah, la garce! Tu te souviens quand elle courait toute nue dans la baie du Mont-Saint-Michel et que je hurlais son nom du haut des remparts de l'abbaye? Antinéa! Antinéa!
À ce propos,
tu sais les dernières nouvelles? Le sable a encore gagné sur la mer. Dans 50 ans, le Mont-Saint-Michel sera au milieu des terres.
Le décor de tes amours au milieu des betteraves.
Oh, ça c'est dingue.
ne serait-ce qu'à cause de ton vocabulaire, tu ne connaîtras jamais l'atroce volupté des grands chagrins d'amour. Mais tout le monde n'a pas la stature d'un tragédien. Contente-toi du bonheur. La consolation des médiocres.
Tu as raison de me remettre à ma place, Camille. Tu es fait pour les alexandrins et la pourpre. Moi, pour les champouineuses et les pinces à vélo. Pas les masques. Désormais, Victor Vautier va marcher à visage découvert.
Belmondo, Audiard et puis Lautner également, pour former le trio parfait, acteur, auteur et réalisateur. Ces deux derniers reviennent en détail sur leur façon de travailler avec Belmondo, interprète aussi docile qu'inspirant.
Belmondo peut jouer n'importe quoi, il peut s'intégrer dans n'importe quelle histoire, il l'a fait. Il se trouve qu'en ce moment, il n'a pas envie de jouer de films dramatiques. Il a envie de jouer des films comiques, un peu d'aventure. Or, il faut écrire pour Belmondo des choses complètement sur mesure. On ne peut pas trouver un roman qui s'adapte, qui lui colle dessus, ou alors il y a un énorme travail. Donc il faut lui façonner un personnage où il puisse s'exprimer, où il puisse bouger, parce que c'est un acteur de mouvement, où il puisse séduire, où il puisse faire rire. Et ça, c'est très difficile. C'est là où intervient la personnalité d'Audiard, c'est que... Surtout qu'on essaye de ne pas adopter le vieux principe, on prend les mêmes et on recommence. On essaye d'adopter le principe, on prend les mêmes et on fait quelque chose de totalement différent. Donc il faut absolument façonner une histoire complète, un costume sur mesure pour Belmondo, en fonction de sa personnalité et en fonction des choses qu'il n'a pas encore faites, le laisser faire des choses nouvelles.
Est-ce que vous écrivez véritablement sur mesure pour Belmondo ?
Ah oui, mais moi j'écris toujours pour les acteurs. Alors de toute façon, c'est bien plus simple que ça. Je n'écris pas quand je ne sais pas qui joue. Moi, alors c'est tout simple. Ou je préfère de loin écrire pour un acteur que je connais, avec qui j'ai passé une soirée ou des dîners ou des trucs comme ça, parce que je connais ses tournures, je vais pas dire ses mots, mais ses tournures, ses expressions. Il y a tout. Les gens ne parlent pas de la même façon dans la vie, c'est bien évident. Bon, bah donc vous allez mettre un acteur beaucoup plus à l'aise si vous êtes dans sa grammaire, sa linguistique et tout ça, il va s'y sentir comme dans des pantoufles. Alors on dit c'est écrit sur mesure. Oui et non, on prend aux acteurs, moi aussi. On a dit des fois, par exemple, que Gabin parlait du Audiard, mais j'écrivais aussi du Gabin, en vérité, car j'employais des mots du comédien. Et ils ont tout de même une langue, ces gens-là, les bons acteurs, je parle. Bon, par exemple, dans la vie, Belmondo et Michel Bouquet, je prends des exemples au hasard, mais enfin, ils ne parlent absolument pas de la même manière, ils ne parlent pas des mêmes choses. Si je suis un dialoguiste conséquent et que je connais mon métier, je ne vais pas écrire demain le même type de dialogue pour l'un que pour l'autre, c'est pas pensable.
Et c'est toujours Lautner, mais seul cette fois, que l'on retrouve sur France Culture pour évoquer un autre film du trio, Le Guignolo, dont le scénario avait été écrit par Jean Herman.
Quand on raconte une scène à Belmondo, il la voit et il commence à la jouer. Et il la joue sous un angle qui lui est complètement personnel. Et comme il aime bien ces décalages comiques, il nous embarque dans une direction où on n'aurait sûrement pas été parce qu'on n'aurait pas osé le pousser. On avait besoin que lui s'adapte à la situation et qu'il commence à jouer en baroque. Alors quand il commence à jouer comme ça, nous on n'a qu'à embrayer derrière. La situation s'adapte à son personnage et chacun apporte quelque chose.
Autre complice commun, Henri Verneuil, avec par exemple le scénario de 100 000 dollars au soleil, coécrit par le cinéaste avec Audiard et Marcel Julian, d'après un roman de Claude Veillot, Nous n'irons pas en Nigeria. Les dialogues sont ciselés par Audiard, et lui seul, avec sa verve habituelle qui, au détour d'une réplique, se fait quelque peu homophobe, tendance la cage aux folles. Certes, c'était en partie dans l'air de ce temps-là.
Salut Sourdingue. J'aurais préféré que t'entendes pas cette conversation. Mais enfin, on sait que tu es l'homme discret.
Marek a fait des bêtises?
Oh, parlons d'autre chose, va.
Il y a plus de veau, je te les ai fait au jambon. Tu veux que je te mette les bières dans une thermos?
Non, non, ça fait rien. Tiens.
À ton avis, qu'est-ce qu'il a pris? C'était pourtant le gars solide.
Ouais, tu sais, quand les passions s'en mêlent, il n'y a plus de type solide.
Les passions, tu dis? Et quelles passions? Je croyais que la veuve Rodriguez était juste un casse-croûte.
Eh ben maintenant, monsieur Beck, t'as la carte.
Quel genre? Une berbère?
Un amirloc, costaud. Genre championne de basket.
Non, c'est pas vrai. Je peux pas y croire. C'est arrivé comment?
On va savoir. Se rencontrer chez Zézé, le coup de foudre. Marc, il aurait pu tomber sur une gentille. En plus, faut qu'elle soit malhonnête.
Eh ben, il est girant, ton petit graisseur.
Tu fais plus équipe avec Saïd?
Depuis ce qui est arrivé au plouc, moi je me méfie.
Dis donc, pour ce qu'on disait, la betterave doit être dans tous ses états.
Terrible. Dis donc, en fait, puisqu'on parle de lui, je pense que tu tiens à sa clientèle.
À cette idée. Pourquoi tu me dis ça?
Ben parce qu'en supposant que tu vois arriver Marek et Saddam et que tu les ravitailles en gasoil, je pense pas que ce soit très apprécié.
T'en fais pas, mes pompes sont à sec.
Et c'est dans ce même film, réalisé par Verneuil en 1964, que l'on peut entendre une réplique désormais culte à la fin d'un dialogue entre Belmondo et Andrea Parisi dans le rôle d'une vamp faussement ingénue. Belmondo y parle le Audiard à la perfection.
Deux heures plus tard, Mitch et sa souris sont à Hitboul Free, en train de se remonter à coups de perniflard. Tout à coup, le cocu débarque, va droit sur sa femme, sans dire un mot, mais il lui balance une paire de mandales à tuer un buff.
Quelqu'un l'avait prévenu?
Le sable. Là, c'était plus des traces de pas qu'il y avait. C'est aussi clair que si on y avait fait voir un plumard au mec.
Ça s'est terminé comment?
Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes. Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de briller, gâche pas tes cartes. »
Et son mari n'a rien dit?
Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Un extrait d'un autre film de Verneuil, toujours dialogué par Audiard, Le corps de mon ennemi, et dont le difficile exercice du monologue en voix off permet de mesurer combien le phrasé belmondien s'accorde avec la prose à la fois précise et ironique de Michel Audiard quand il est à son meilleur.
Deux fois plus de con, ça paraît impossible. De toute façon, ça ne change rien puisque rien ne changera jamais dans cette ville qui n'est pas une ville, mais un temple élevé à la prospérité et à la grandeur du textile. D'ailleurs, c'est le sucre, le pinard, le pneu, le nougat, la bagnole. Ici, c'est le textile. Personne n'y échappe. On ne vit que par et pour le textile, de la naissance à la mort. Le textile, la perpétuité.
Mais Belmondo, on le sait bien, peut parler mille langues, y compris les plus argotiques, boulevardières, voire misogynes, comme dans cet extrait du film « La chasse à l'homme », réalisé par Édouard Molinaro en 1964, sur un scénario de France Roche et des dialogues de l'omniprésent Audiard. Preuve que Belmondo peut aussi parler le proxénète, tendance pigale jusqu'à la caricature.
Alors ?
Nom de Dieu, quand je pense que je te fais confiance.
Oh, mais écoute,
mais qu'est-ce que tu veux que j'écoute?
On ne devrait jamais améliorer le sort des gens. J'aurais dû te laisser végéter dans ton prise unique. Non, quand je pense au mal que je me donne. La petite boutique pas chère, le fonds de commerce pas trop piégé. Tu crois que ça se trouve facilement? Quand t'arrives le soir, je suis mort. Je prends sur mes heures de repos pour venir te voir. Moralité, ça paye même pas l'essence.
Oh, tu es méchant, Fernand.
Non. Je suis réaliste.
Où sommes, ce Fernand?
Soir, Ingrid. Et si ça continue, déplacement, tu t'en occuperas toute seule. Ton carbure, j'y toucherai plus.
Oh, Fernand, t'as pas le droit.
Plus une thune. Je te laisserai tout. Tu la connais un peu, l'incertitude. Au lieu d'avoir ta petite épicerie, tu finiras chez les Baloubas.
Écoute, Fernand. Si tu permets, je vais encore aller me promener un peu. Pour améliorer, hein?
Toi, alors, je sais pas ce que tu m'as fait. Je te passe tout.
Quant à cette courte réplique, entendue dans Le Professionnel de Georges Lautner, on préférera l'oublier quand on saura que le personnage, joué par Belmondo, s'adresse à un homme politique africain. Mais n'est-ce pas, c'était l'époque, diront certains. En 1981, il était pourtant bien fini le temps des colonies.
Vous êtes vraiment extraordinaire. Il vous aura fallu 3 révolutions et 5 républiques pour parvenir à une caricature de démocratie. Et vous voudriez que j'y arrive du premier coup.
Je m'en fous. Toutes ces salades sur l'éthique, la morale et l'histoire comparée, j'en ai rien à foutre. Tu vois ? Même malin comme un singe, j'avais plus rien dire.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada. La Bébelle Époque. Jean-Paul Belmondo, D'à bout de souffle à l'As des As, par Laurent Delmas.
Acteur et imitateur, Laurent Gérard évoque à notre micro et en expert la prosodie si particulière de Belmondo.
Il y a cette prosodie chez Belmondo, il y a cette musicalité de la voix. Il y a quelque chose de très théâtral chez lui.
Oui.
Il faut savoir que, quand même, un de ses acteurs préférés, c'était Jules Berry, qui était quelqu'un qui avait aussi cette faconde. Quand,
avec une respiration très particulière.
Oui, quand dans Le Jour se lève, il dit « je plais ». Qu'est-ce que vous voulez, je plais. On sent que Jean-Paul Belmondo aimait ce genre d'acteur. Il aimait Rému, il aimait les acteurs de cette génération aussi. Il s'en est peut-être inspiré. En tout cas, il les a adulés. Et on retrouve une façon de dire à l'ancienne.
Et vous l'avez fait vous-même là, il y a la main. Il y a le geste.
Oui, il y a le geste.
Qui va avec. Parce que quand Berry dit « je plais », il y a la main qui va avec.
Oui, je plais. Comme quand Belmondo dit « j'allais moi-même de ses frayeurs étant enfant, et dans notre vaste demeure, près de la forêt de Bondy, je sautais de guérets en guérets, tout en sifflotant des comptines ». C'est quelque chose de très théâtral.
Il y a de la scansion,
oui.
et la main scande.
Exactement.
Avec la voix, quoi. Donc ça, c'est très étonnant.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette influence des grands acteurs.
Belmondo, bah c'est le côté très théâtral, mais le plaisir du théâtre dans le sens forain, quoi, dans le sens presque moyenâgeux. Enfin, j'imagine extrêmement bien Belmondo avec une carriole sillonnant les routes de France et s'arrêtant dans des tavernes et ayant des aventures avec des soubrettes. Ça semble correspondre à son personnage. Il y a un côté bonhomme, joyeux.
Michel Hazanavicius, réalisateur.
C'est joueur hein, de se travestir, de se déguiser, de mettre des... Quand il joue à la tardée, dans le magnifique et tout ça, faire des grimaces, faire des trucs... ouais, il aime ça. Il joue, quoi. Après, c'est quelqu'un qui a quand même une grande aisance dans le jeu. Il aime aller dans... Comment dire? Au plus loin dans le jeu. C'est pas dans le réalisme quotidien que Belmondo exprime tout son talent au mieux, quoi. Et c'est dans le côté un peu gasmanien aussi, un jeu très projeté, pas forcément réaliste, mais une espèce de convention de jeu, je dirais les bras ouverts, même si c'est pas forcément les bras ouverts, mais tout sourire et la joie de faire un gros mensonge bien marrant et le reste on s'en fout un peu. Ce qui n'empêche pas d'être grave, ce qui n'empêche pas d'être riche dans plein de choses, mais il y a cette espèce de joie, je dirais projetée, un jeu projeté. Du jardin quand il est plus classique ou plus intérieur, je dirais pas qu'il est belmondien, si tant est que ce substantif existe.
Le belmondisme existe.
Ouais, mais en tous les cas, il y a une joie de jouer. Il y a une phrase de Belmondo que j'adore et dans laquelle Dujardin peut sans doute se reconnaître. C'était quelqu'un qui était venu sur un plateau et puis quelqu'un qui connaissait pas vraiment le cinéma et qui s'étonnait de tout ce temps que les acteurs attendent comme ça à ne pas travailler. Il dit, mais monsieur Belmondo, vous passez votre temps à attendre. Et il a répondu, c'est pour ça que je suis payé si cher. Jouer, c'est gratuit. Ça en dit beaucoup sur son jeu, quoi. Le jeu, c'est gratuit.
Et Claude Lelouch d'insister, lui, sur la dimension éminemment francophone de l'art oratoire de Belmondo. Contrairement à d'autres, l'acteur ne s'est jamais aventuré en dehors des territoires de sa langue natale.
Je pense qu'ils ont un point commun avec Jean Dujardin. Ça les fait chier de parler anglais. Ils se donnent du mal. Voilà. Jean-Paul a besoin d'être à l'aise avec la parole. Bon. La pire des choses qui pouvait arriver à Jean-Paul, c'était de perdre la parole. C'est ce qui est arrivé. Bon. Pour un comédien, c'est la pire des choses. Voilà. Et quand vous êtes obligé de jouer en faisant un effort pour se dire « je dis pas de conneries, est-ce qu'il faut le dire ?» Si vous concentrez toute votre force sur la prononciation, sur un anglais impeccable, parce que les Américains veulent... vous jouez plus. Ils ont très vite compris, tous les deux, Jean et Jean-Paul, qu'ils allaient perdre leur arme numéro un, qui est la spontanéité, qui est de pouvoir jouer avec la langue. Jean-Paul, si vous lui donnez des dialogues d'Audiard, il va se promener. L'argot, c'est pour lui. Pareil pour Jean. C'est en cela qu'ils sont très proches. Ce n'est pas des carriéristes. Jean-Paul et Jean ont eu les plus grandes propositions qu'on puisse avoir. Surtout après Un homme qui me plaît, Jean après The Artist. On voit ce qu'ils ont fait. Donc ils sont allés faire de la figuration. À l'inverse d'un Delon qui, lui, a fait l'effort d'apprendre l'anglais. Mais Jean-Paul, c'était pas son truc. Jean-Paul, quand il arrive sur un plateau, c'est pour s'amuser. C'est pas pour travailler. Vous avez deux sortes d'acteurs, ceux qui rentrent dans la... tout de suite, qui sont vraiment des blocs d'instinct, et ceux qui se préparent pendant des semaines, des mois. Et les deux font de très bons films. Hein. Mais quand j'ai eu la chance d'avoir Jean-Paul et Annie ensemble, ça partait vite, il fallait pas rater. Et puis, bon, je fais un cinéma où il y a des figures imposées, des figures libres. Le problème que j'avais avec Jean-Paul, c'est que j'avais envie de le filmer même quand on tournait pas. Même quand le soir, on rentrait à l'hôtel ou en voiture, je me disais, putain, mais pourquoi je tourne pas ? Il est né comme ça. Et puis, il adorait faire des blagues. Je veux dire, alors, si on commence à faire la liste des blagues de Jean-Paul, on va pas en finir. Mais il ne peut pas s'empêcher de provoquer le rire, la bonne humeur, la camaraderie, parce qu'il sait, il a très vite compris que le sourire était plus rentable que de faire la gueule.
Il est temps d'évoquer une autre collaboration artistique fructueuse qui donna lieu à deux films, Le Cerveau en 1969 et L'As des As en 1982. À deux reprises, le réalisateur Gérard Houry fait tourner Belmondo sur des scénarios coécrits avec Daniel Thompson, avec également pour Le Cerveau Marcel Julien. Deux films qui, à eux deux, totalisent à part égale plus de 10 millions de spectateurs. Deux scénarios pour faire sourire et rire d'abord, comme on l'entendra dans un extrait du Cerveau, mais qui n'empêcheront pas Gérard Houry de déplorer le manque d'imagination des scénaristes à l'égard de Belmondo.
C'est bien au monsieur anglais du sixième que j'ai l'honneur de parler.
Oui.
Je suis à bout, monsieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous ?
Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat.
Oh ! Vous savez à qui vous parlez ?
Au gros tas que je croise tous les jours dans l'escalier.
André, regarde !
Il pleut chez moi, monsieur !
Il pleut chez vous ? Mais c'est exprès.
Mais je vais monter, vous corrigez, monsieur ! Je vais monter !
Mais bien sûr, montez donc ! Espèce de lavette ! Dégonflé ! Pauvre type ! Cornichon !
Cornichon ! Dégonflé ! Il va voir ça !
Je pense et je regrette que le côté cascade chez Belmondo ait effacé dans l'esprit de certains le fait que Belmondo est un prodigieux comédien, c'est un grand, grand, grand acteur qui, aujourd'hui, prend la dimension, la place et l'étoffe d'un Rému. Et je souhaite de tout mon cœur que les auteurs écrivent pour Jean-Paul Belmondo des scènes où il est l'occasion à la fois de faire rire et de faire pleurer. Quand dans L'As des As, il est avec ce petit garçon de juif, c'est un homme qui a une humanité sur son visage. Et pour moi, si vous voulez, il est à la fois proche de John Wayne, au moment de l'apogée de John Wayne, et de Rému. Voilà ce que c'est Jean-Paul aujourd'hui. Alors je souhaite que ça ne soit pas uniquement des cascades, et que, bon, même si le public le réclame de temps en temps, il en fasse une, mais qu'aussi qu'on lui donne l'occasion de jouer des beaux rôles où il peut faire rire et où il peut faire pleurer. C'est une... je ne sais pas s'il entendra cette émission, parce qu'il est en train de tourner en ce moment, mais c'est presque une demande que je lui fais.
Alors c'est comme dans la mode, il y a le prêt-à-porter, oui, et puis il y a la haute couture.
Patrice Lecomte, réalisateur.
Je prétends pas être un cinéaste de haute couture, mais c'est vrai qu'on a fait du sur-mesure comme c'est pas permis, puisqu'on savait que le film c'était eux deux, enfin eux trois. Donc on a vraiment écrit pour eux. Et c'est pas là pour le coup, c'est pas du tout intimidant, ça donne des ailes.
Ah oui.
L'imagination galope beaucoup plus vite, puisqu'on sait que c'est Belmondo qui va jouer ça, qui va dire cette phrase, qu'en face il aura Delon qui va se foutre de sa tronche. Enfin bon, c'était très inspirant. Les acteurs en général sont très inspirants, mais eux particulièrement quand même. Il y a un parler, il y a une attitude, il y a une manière d'être, de faire, tout ça, mais il y a un phrasé,
oui.
Il y a un timbre. Delon, et il y a un timbre Belmondo. C'est normal, c'est des gens qui ont une personnalité très très forte. Et donc quand on écrit, ces timbres-là, ces voix-là, elles sont doucement, délicatement dans un coin de votre crâne, et elles résonnent, oui, bien sûr.
Est-ce que l'idée d'autodérision des deux monstres était inscrite dans le projet initial ?
Oui, il était important on trouvait, quand on écrivait, quand après Serge Friedman est venu dialoguer le film, très joliment d'ailleurs, ce parti pris d'autodérision était vraiment notre parti pris. On avait envie qu'ils aient la trouille, l'un comme l'autre, de ne pas être à la hauteur, parce que les années s'étaient accumulées, qu'ils n'avaient plus tout à fait 25 ans, que les conneries c'était bon pour avant, mais que là, il faudrait que ça se tienne tranquille. Enfin bref, et puis que le scénario les oblige à affronter des événements costauds. Mais j'ai un regret, c'est que je me suis rendu compte, trop tard, c'est-à-dire pendant le tournage, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans l'autodérision. Ils étaient très clients de ça. Nous, on y allait un peu sur la pointe des pieds en disant « ils vont nous en retourner une ». Mais c'est pas nous qui nous moquions d'eux, c'est eux qui étaient censés se moquer d'eux-mêmes.
Absolument.
Et de se chercher des crosses, de se balancer des vannes l'un à l'autre. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, puisqu'on est là pour se parler de Belmondo, à la fin du film, Delon et Vanessa Paradis sont dans un hélicoptère, et Belmondo est en bas dans sa voiture et il lui balance une échelle de corde. C'était pas dans le scénario. Enfin, si, c'est devenu dans le scénario, parce que après une première lecture, c'est Belmondo qui m'a dit « Patrice, écoute, ce serait bien qu'il y ait ça. » C'est lui qui a suggéré ça, en disant « Oh non, je vais pas encore monter à une échelle de corde, oh là là, j'en ai marre. » Enfin bon, que ce soit lui qui râle sur cette espèce de gimmick belmondesque de monter à une échelle de corde ou d'être pendu sous un hélicoptère ou que sais-je. C'est lui qui m'a proposé ça et j'ai gobé ça avec gourmandise, vous imaginez bien. C'est une proposition de Belmondo. Moi, j'aimerais bien être comme lui à son âge.
Quoi qu'il en soit, les langages de Belmondo furent divers, variés et éclectiques. Mais peut-être que ce que l'on retiendra, c'est la gouaille désinvolte à souhait d'un jeune et séduisant voyou quittant Marseille pour Paris à bord d'une voiture volée et qui n'hésite pas à s'adresser directement au spectateur, comme un pied de nez aux conventions du cinéma et aux conventions tout court. Le belmondisme, ce sont d'abord et à jamais ces mots-là.
La 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 la. Mi amor. S'il croit qu'il va me doubler celui-là, que ça frégate à la con. Pa 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 Patricia Patricia. L'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite, t'as pas l'air mal. La jolie cuisse.
Oui, mais l'autre. Oh, après tout. Merde, elles sont trop moches.
Cette émission a été préparée de la plus belle façon par Marion Philippe. Elle a été impeccablement réalisée par Stéphane Ronxin avec la complicité aujourd'hui d'Alexandre Chenet. Et croyez-moi, ce sont des professionnels et pas des guignolos. Prochain et ultime épisode de notre Bébelle Époque, le temps des héritiers.